Ce foudroyage à la dynamite de l'ex-magasin central des chantiers navals de la Ciotat cet après-midi, c'est l'image du jour. Construit en 1960 d'une surface de 2800 m², il ne reste plus à présent de celui-ci que 6000 m³ de pierre. Un bâtiment qui faisait partie des biens immobiliers de l'ex-Normed et que la mairie avait acquis en faisant valoir son droit de préemption, annulé depuis par le tribunal administratif de Marseille. Sur ce site, bientôt des bureaux, des commerces et des habitations, dans le cadre de la ZAC de la Tour.
Ça a été une des plus longues occupations d'un site, fait par un groupe d'environ 105 ouvriers du chantier, qui depuis les années 88 jusqu'à il y a encore peu de temps, c'est-à-dire jusqu'à 2000, donc ont occupé ce chantier de façon à pouvoir préserver l'outil de travail, c'est-à-dire essentiellement tous les engins de levage qui sont les grands portiques, les grandes grues. Constatant que dans les autres chantiers, en particulier celui de la Seine et celui de Dunkerque, dès que la décision a été prise de fermer ces chantiers, les outils de levage ont été démantelés. Donc eux ont tenu à conserver en l'état ce chantier et de pouvoir étudier les nouvelles orientations qui allaient pouvoir être données, refusant de façon catégorique l'évolution du site naval du chantier en marina, ce qui était un projet qui se profilait comme dans bon nombre d'ailleurs de sites de la côte méditerranéenne.
Les Chevaliers de la Lumière portent en eux le souvenir d'un engagement ouvrier de près de 10 ans. 105 ouvriers du chantier naval de la Ciotat ont refusé la fermeture de leur outil de travail en 1988 pour se mettre en grève et occuper les lieux jusqu'à la fin des années 90. Aujourd'hui, le chantier est toujours là et devrait encore perdurer si l'on en croit les nouveaux investissements qui sont en cours. Cette lutte est certes exemplaire, mais le souvenir de la vie du chantier est encore très fort. Aujourd'hui, un documentaire réalisé par Xavier Marchand, Adèle Collard et Clara Le Picard raconte en 26 minutes, à travers le témoignage des ouvriers de la Ciotat, cette histoire. Pour l'instant, nous allons, accompagnés par Adèle Collard et Xavier Marchand, retracer cette histoire à partir des extraits de leur documentaire « Portraits croisés ». La plupart des ouvriers qui vont nous raconter leur attachement à ce chantier naval n'y travaillent plus. Il y a Marius Sioni, Pierre Bouvier, Albert Tosi et son père Marino Tosi et Daniel Laurent. Celui-ci d'ailleurs constitue depuis le début du conflit une revue de presse relatant de tous les faits qui ont accompagné cette lutte. Vous en entendrez d'ailleurs plusieurs extraits au cours de cette émission. On finit avec le dernier, c'est Nicolas Pluet. Il est le seul syndiqué de son entreprise et il est aujourd'hui ouvrier au chantier naval de la Ciotat.
Alors, quand je faisais 5 à 1, je me levais à 4h15.
Daniel Laurent.
Je buvais mon café. Je partais à 4h30. J'arrivais au chantier, on pointait à 5h20.
Au baromètre ?
Ah non, non, à la porte. On appelait ça la porte du Mugel. Il fallait passer par le Mugel. On appelait la porte du Mugel. C'est là que je pointais. Après, on allait au vestiaire, on changeait, et après, à 5 heures, en principe, à 5 heures, on aurait dû être à bord. Et il y avait des petits débordements, d'arriver que 5 heures et quoi. Après, on savait ce qu'on avait à faire, on attaquait notre travail. À 6h30, on avait le casse-côte. Soit, si c'était l'été, on mangeait à bord, sur le bateau, ou en dessous du bateau. Tout dépend où c'est qu'on était. Ou alors on allait au vestiaire l'hiver. Et là, on prenait bien grosse demi-heure. On avait le droit à 20 minutes. Et après, on revenait, on continuait ce qu'on avait à finir. À midi et demi, on avait un bain de douche. Et à une heure, on sortait, on rentrait à la maison. Vu que le travail était fait, c'était le principal.
Et la sortie ?
La sortie, 13 heures. Ça, la sortie, il fallait la voir. C'était grandiose. Parce que quand il y avait le coup de sirène, il fallait voir tous ces gens qui couraient. On ne sait pas pourquoi, mais ils couraient. Ils étaient pressés de sortir, je suppose.
Albert Tosi et son père Marino Tosi.
D'abord, l'homme en général aime la facilité. Et sur la Ciotat, la facilité, c'était ce que disait papa tout à l'heure. Le matin, tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, tu fais 100-200 mètres, tu es sur ton lieu de travail. C'est énorme, ça. Sur ton lieu de travail, tu ne t'y ennuies pas, parce que tu as toujours quelque chose de nouveau à faire. Les bateaux sont différents les uns des autres, etc. Et puis, bon, tu rencontres des amis, on vit là en famille, pratiquement, parce qu'on avait quand même des activités conviviales dans les entreprises. Hein. Je vous ai apporté, là.
Je vais vous raconter,
je vous ai apporté.
Nous étions à bord, on travaillait à bord. Et bien, vers les 6h30, 7h, on voyait passer la femme, sa femme et les enfants, qui partaient au Mugel ou à Figueroa, avec on allait, le soir, en sortant du travail, on allait souper au bord de mer. Ça. Ou alors on allait manger à Saint-Jean, en bas sur les mattes à Saint-Jean. Et ça, c'était... Et je vous dis, c'est des souvenirs, ça, de...
On vit quand même dans un site qui est très particulier, formidable. Alors on avait le travail et le site. Autrement dit, on pouvait travailler, et hors du chantier, il suffisait d'aller sur la plage, aux abords de la ville, on avait la colline, on avait tout, quoi. Et c'était véritablement idyllique, à condition d'avoir le travail. Tout est resté où il n'y a plus le travail. Mais il y a toujours cet amour de ce qui a été, ce que nous avons connu, et qu'aujourd'hui on n'a plus, et que l'on n'a plus non plus pour nos enfants.
Daniel Laurent.
Des bruits assourdissants que le chantier produisait.
Ah oui, non, ça c'est vrai.
Si vous en restez quelques-uns, ce serait lesquels ?
Un bruit, alors qui était insupportable, le chanfreineur. Ça oui, c'est la cigale, ça. Alors, je ne vous dis pas, le chanfreineur avec son pistolet à air, et au bout du pistolet, bon, c'est un burin qui enlève les bavures de soudure sur la ferraille. Je vous laisse imaginer le bruit que ça peut faire. Et après, ça c'est quand je suis arrivé au début. Ça m'a fait drôle, parce que quand vous entendez ça à 6h, parce qu'ils avaient le droit de commencer à 6h, 6h du matin, je pense que les gens qui étaient autour du chantier ne devaient pas trop aimer.
Et comment expliquez-vous qu'après la fermeture, la lutte ait duré si longtemps ? Les chantiers ferment quand ?
Ben les chantiers, ils ont fermé au mois d'octobre 88. Et c'est là qu'on est rentré en occupation pour dire non à la fermeture.
Qui en a décidé ?
C'est nous, les ouvriers.
Ça s'est décidé comment ?
En assemblée générale, dans une nef, dans la nef D. Et ça a duré 12 ans. Et même un peu plus. Qu'aujourd'hui, à l'heure que je parle, même si on n'est plus en occupation, qu'il y a des entreprises, on est toujours... sur le qui-vive. Et l'outillage, on l'a protégé. Parce que quand on a redémarré, l'outillage fonctionnait. On s'est battu pour un chantier de tradition comme on avait. C'était l'Alexmar qui avait un plan. On se battait pour ça. Après, quand eux, ils n'en voulaient pas, on s'est reporté sur autre chose. Et c'est là qu'est venue l'idée de la haute plaisance. Et là, on a rencontré un peu plus de monde derrière nous.
nous, la fermeture du chantier, ça a été quelque chose. Vous savez qu'il y a des familles ciotadennes, des familles qui se sont perdues. Il y a eu des divorces par la faute de la fermeture. Il y en a des maris qui sont partis travailler à Dunkerque, d'un bord de l'autre, et qui ont laissé leurs femmes avec leurs enfants. Mais ça crée ça fait même démolir des familles.
Il y a celui-là, le drame, mais il y a aussi des suicides.
Il y a eu des suicides.
Il y avait des suicides tous les mois. Et pourquoi? Parce que les gars, ils n'arrivaient pas à faire face aux difficultés dans lesquelles ils se trouvaient.
Il y a des
copains qui aujourd'hui sont morts, qui ont acheté par exemple des commerces pour lesquels ils n'étaient pas formés. Parce que on est parti avec 20 millions d'anciens francs, là. Certains se sont endettés, ils ont acheté des commerces ou autre, histoire de pouvoir s'en sortir, puisqu'ils étaient trop jeunes pour prendre la retraite. Et puis ne vient pas commerçant qui veut, ça ne se passe pas comme ça. Et donc souvent ils ont fait des erreurs d'appréciation, et certains soit se sont suicidés, soit se sont mis à boire, se sont séparés de leur femme, c'est affreux quoi.
Parler du chantier naval
Xavier Marchand
à La Ciotat, c'est un sujet évidemment récurrent, mais c'est un sujet encore assez brûlant. Une partie de la population a considéré que ce conflit a mis à bas la ville pendant plusieurs années et a freiné donc le développement plutôt à caractère touristique, qui était l'aspiration de nombre de ciotadins.
Vous en parlez de...
Non.
Cette histoire
de, l'histoire de notre occupation.
Du chantier de l'occupation?
Non.
Pourquoi?
Plus maintenant. Il fut un temps quand on y était dedans, oui. Ça, on en parlait. Mais maintenant, c'est... Il y a des gens qui ont oublié, il y a des gens qui s'en foutaient de l'occupation, il y a des gens... Vous savez, les ciotadins, ils n'ont pas été à la hauteur, pour moi, ça. Ils n'ont pas été à la hauteur comme on aurait souhaité qu'ils soient, plus derrière nous. Et ça, malheureusement, il ne peut pas dire que c'est tous les ciotadins. Non, on ne peut pas le dire, ça. Mais 80%, 70-80% de ciotadins... n'était pas derrière son chantier. Pourtant, le chantier a fait vivre beaucoup de monde. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup les cités, le porte-à-porte pour les pétitions. Il y en a qui vous ouvrent bien, mais alors il y en a... Ils envoient sur les fleurs, mais presque. Moi, le chantier ne m'intéresse pas. Et pourtant, dans la famille, il y en avait qui travaillaient au chantier.
La première réaction de nombre de personnes, c'était de ne pas en parler. Il se trouve qu'une heure ou une heure et demie après, on était toujours en train de ne pas en parler. Et c'est donc un sujet qui est encore... De toute façon, le chantier est au cœur de la ville. Un des ouvriers nous a raconté que des chantiers navals, il y en a depuis François Ier à La Ciotat. Il y a des traces de chantiers navals depuis cette époque-là.
Mais c'est vrai aussi, c'est que le chantier, c'est la racine de La Ciotat. Le chantier est construit, c'est construit à l'intérieur de la ville, et la ville s'est développée autour du chantier. La Ciotat, il y a eu une valse de fermeture qui sont produites suite à... Il faut savoir quand même que l'activité des chantiers générait une masse salariale de 400 millions de francs dans l'année. Alors donc si on considère que 50% retombait sur le commerce local, on peut voir que ça faisait quand même une sacrée somme. Lors de la dernière campagne électorale, les commerçants locaux ont apporté un soutien aux élus de gauche parce qu'ils sentent que l'ouverture de chantier est une possibilité aujourd'hui très vive et que pour eux, les retombées seront très positives.
Sur le niveau nationale, la classe ouvrière, ça a été toujours celle qui a été regardée avec fierté par ceux qui la composent, mais qui a été également regardée avec un peu de hauteur de la part de ce que l'on peut appeler la bourgeoisie, même si c'est parfois la petite bourgeoisie. Le petit commerçant ne se rendait pas compte que l'argent qu'il faisait, c'était grâce à cette classe ouvrière. Ils s'en sont rendus compte qu'après,
quand
l'entreprise a fermé. Et là, ils sont tombés de bédo. Parce que imaginez dans une ville comme La Ciotat, cette manne d'argent qui tous les mois tombait dans l'économie de la ville, parce que la classe ouvrière, c'est la même partout. L'ouvrier, quand il a l'argent, il le dépense. Et il ne joue pas en bourse, lui. Hein.
La ville de La Ciotat, pour les ouvriers, pour la maîtrise, pour même les commerçants, c'était une grande joie, c'était une fête, un lancement à La Ciotat.
C'est quoi un lancement ?
Un lancement, c'est quand le bateau il est sur son berceau, suifé, retenu par une saisine, on appelle ça, hein, qui, quand la saisine était coupée.
Le tôle, la saisine.
Quand, c'était une tôle, bien entendu. Quand elle était coupée et que la marraine, quand le bateau, le curé avait béni l'arrière, et que la marraine avait cassé la bouteille, toutes les sirènes, toutes les cloches de La Ciotat jouaient. C'était une fête quand on voyait descendre ce bateau vers l'ancienne mairie. On aurait dit qu'il allait rentrer dans la mairie, vous savez, avec des grandes gerbes d'eau. Combien il y en a de gens qui ont pris le bain sur le quai en face. Parce que quand ce gros bateau rentrait dans...
Vous avez dû voir des photos.
C'était quelque chose de merveilleux. C'était une fête. Et à ce moment-là, parce que tous les mois, un mois et demi, il y avait un lancement à ce moment-là. C'était... Les gens se déplaçaient de Marseille, d'un bord de l'autre, même de Paris. On venait voir des lancements à La Ciotat.
Marius Cioni.
Le chantier, c'était le poumon de la ville. C'était le poumon, comme ça a été le poumon de la résistance, le chantier, le poumon de la ville. C'est-à-dire, j'aime ma ville, je me suis battu pour qu'elle soit de plus en plus belle, mais j'ai conscience que s'il n'y a pas une reprise de l'activité de construction navale, ou quelle que soit la construction navale, il ne faut pas rêver, enfin, je ne suis pas de ceux qui rêvent à ce qu'on revienne au grand bateau, je dis que ça, c'est, pour moi, c'est terminé. Mais ça s'impose comme étant une nécessité d'avoir cette construction, quelle qu'elle soit, nautique de grand luxe, on l'appellera comme on voudra, mais enfin, c'est un besoin, c'est une ville qui est intimement liée. La mer amène à avoir ces sentiments, et ce n'est pas du chauvinisme ni du corporatisme, c'est que... Quand on connaît bien sa ville, on se rend compte que c'est le seul moyen, parce que quel autre moyen on peut avoir à La Ciotat si on ne crée pas de construction navale ? On va développer quoi comme activité ? On peut être une ville dortoir, hein, pour qu'il y ait d'autres entreprises qui s'installent, ce qu'il faut d'ailleurs. Hein. Il y a une politique qu'il faut avoir, il faut avoir une activité navale, développer l'économie, d'autres économies et développer le tourisme.
Bonsoir, les images que vous venez de voir ont été tournées ce matin dans les rues de Marseille. Les manifestants étaient les anciens ouvriers, les chômeurs des chantiers navals de La Ciotat. Il y a aujourd'hui presque 1500 jours qu'ils s'interrogent sur leur avenir. Pourtant, il y a à peine 3 mois, des promesses précises ont été formulées à leur intention, car comme toujours depuis un certain nombre d'années, le maintien de la navale à La Ciotat était un enjeu pour ces élections régionales de mars 92. Alors, les élections ont vécu, les candidats sont élus. Et maintenant, que va-t-il se passer à La Ciotat ?
Il y a eu un basculement d'une ville traditionnellement à gauche. Bon, il faut se figurer que pendant tout un temps, la ville de La Ciotat vivait beaucoup de son chantier. donc une présence ouvrière importante, puisque dans les années où le chantier marchait à fond, il y avait presque 6000 ouvriers. Et quasiment tous étaient syndiqués. Bon, donc une force politique et syndicale très importante. Et bah, au fur et à mesure des licenciements, cette force-là a évidemment considérablement diminué.
On a voulu rassembler les chantiers. C'est pas ça qui a sauvé les chantiers. Au contraire, on a fermé Dunkerque. La Seine allait très mal. Il n'y avait plus qu'un peu la Ciota, mais il fallait, parce qu'il fallait finir les dernières commandes qu'il y avait. Mais on allait vers la fermeture. C'était le souhait des politiques, que c'était politique.
D'après vous, pourquoi ?
Pourquoi ? Eux, ils vous disent c'est l'Europe, on veut plus de chantier à la Ciotat ou en France, parce qu'il y avait Dunkerque et la Seine. On dit qu'on était trop cher. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on veut fermer, on dit que vous avez la gale. Voilà.
12 mars 92, l'espoir pour les chantiers navals de la Ciotat. En pleine campagne électorale, Pierre Bérégovoy, ministre à l'époque des Finances, annonce avec Bernard Tapie que le gouvernement autorise le Conseil général des Bouches-du-Rhône à racheter l'outillage des chantiers. Un véritable coup de théâtre, puisque jusque-là, l'État, depuis mars 88, s'était engagé auprès de Bruxelles à une fermeture définitive et irréversible de la Ciotat pendant au moins 5 ans. Deux mois plus tard, une dépêche de l'agence de presse, l'ACP, annonce que la France renonce à la réouverture de la Ciotat. Une nouvelle reprise ce matin par le quotidien Le Méridional. Le service de presse de Matignon dément. Le gouvernement maintient sa position. Du côté du ministère de l'Industrie, aucun commentaire pour l'instant, en l'absence du ministre Dominique Strauss-Kahn en voyage en Israël. Côté CGT, on parle de coup monté pour saper le moral du personnel des chantiers.
Pourquoi c'est une histoire qui intéresse ?
Nicolas Pluet.
Bah, déjà parce qu'on est dans un bâtiment qui a une histoire, et ça, moi, c'est pas indifférent de savoir qu'il y a eu ici un grand chantier. Bon, j'ai appris en arrivant à la Ciotat que des chantiers navals, il y en a eu sans interruption depuis l'époque de François Ier.
Ici,
oui. Et avant, bon, il y a toute une histoire qui est liée à la baie de la Ciotat, au fait que c'est un bon abri contre le Mistral et que ça devait être un point de débarquement commode avant même qu'il y ait les chantiers navals, quoi. Mais bon, moi, je suis venu à ce métier, ça m'intéresse, et d'être dans un site qui a été comme ça, un site de construction de bateaux depuis très très longtemps, bon, pour moi, c'est quelque chose qui compte.
Pierre Bouvier.
Ces dix ans d'occupation, durant ces 10 années, vous avez gardé espoir que le chantier ne changerait pas radicalement de...
Il y avait une solution, il y avait des solutions au fur et à mesure. Parce que c'est sûr que n'importe lequel des plus fous du groupe ou communauté, on lui aurait dit on va occuper pendant 10 ans pour gagner, ben, personne ne serait resté. Quelle est la personne équilibrée, un petit peu, qui va dire je vais rester occuper mon site pendant 10 ans? Personne, avec tout ce que ça implique, parce que ça implique des sacrés trucs. Hein. Les tripes, quand les boyaux vous montent là, quand, vous savez, tout ça, là, les occupations des gares avec les CRS, on a peur autant qu'eux, parce qu'eux aussi ils ont peur, mais on a peur, on se prend des coups, on se prend du gaz, on court sur les rails, on passe dans les tunnels sans rien voir, risque de se faire pas écraser parce que les trains sont bloqués. Quand on fait des trucs comme ça, vous savez, c'est vachement grave. Hein. Mais moi je l'ai fait parce que la personne qui allait le faire, qui me demandait de le faire, implicitement, parce qu'elle ne me le demandait pas, c'était mes enfants. Hein. Je faisais pour eux, hein. Parce qu'à la limite, moi...
Pourquoi est-ce que, d'après vous, d'après eux donc, cette lutte avait duré si longtemps ? L'un dit que les bateaux de la Ciotat avaient une telle réputation que quand ils étaient revendus, ils étaient toujours vendus 20 à 30% plus cher. Il y avait certainement cette image réelle et symbolique de ces énormes bateaux qui périodiquement prenaient la mer et s'en allaient. Bon, c'est des gens qui gagnaient relativement bien leur vie et même plutôt bien leur vie. Enfin, ils n'avaient aucun souci pour faire vivre des familles. Il y avait une vie syndicale vraiment présente, des comités d'entreprise puissants, bien lotis. Hein, donc les ouvriers du chantier pouvaient envoyer leurs enfants faire du ski. Enfin bref, donc c'était une vie ouvrière tout à fait, je veux dire, structurée et très vivante. Donc évidemment, il y a forcément une nostalgie de ça. Et l'esprit de la lutte, c'est évidemment quelque chose qu'ils ont transmis à leurs enfants. Mais bon, certains d'entre eux, parce que les drames dus au licenciement ont été très nombreux. Il y a des gens qui se sont retrouvés non seulement sans travail, mais les sommes qui leur ont été données pour partir, bon, ça a suffi à les faire vivre 2 ans. Et puis ensuite, voilà, il y a plein de gens qui se sont retrouvés strictement au chômage, avec tout ce que le chômage apporte, quoi.
Maurice Bourron, un des 126 ouvriers qui lutte depuis des mois pour la réouverture des chantiers, est sûr de gagner son combat.
C'est vrai qu'on n'est pas les super-hommes, on est des hommes simples. Ma femme voit aussi elle, comment ça se passe un peu autour d'elle, au niveau de l'emploi, elle voit comme moi qu'il y a autant de chômeurs, elle travaille. Ça peut que m'aider, quoi. Continuer la lutte. Donc, en voyant un peu ce qui se passe tout autour, ça met quand même dans la tête que j'ai raison quand même de continuer à lutter. Et surtout avec la perspective d'avenir qu'on peut avoir, quoi. Hein. Pas, qu'on aura, hein, parce que ce chantier, 43 mois de lutte, 43, c'est un mot qui est très court, mais c'est long et ça nous amène à... On s'est soudés entre centaines de collègues et comme on a toujours dit, on lâchera pas, quoi. Donc on gagnera la rouverture de ce chantier.
Ces 105 ouvriers qu'on appelle les chevaliers de la lumière, bon, pourquoi ? Parce que parfois ils s'enfermaient dans le grand portique, hein, perché à 90 mètres au-dessus du sol, donc en plein ciel. Ils n'ont pas été toujours ni bien vus ni soutenus. C'est au fur et à mesure de leur lutte que tous les systèmes de solidarité se sont mis en place. De la part des ciotadins eux-mêmes et de la part aussi de l'organisation, des organisations politiques. Hein. Cette lutte étant tout de même une lutte, je crois, une des plus longues en France et emblématique d'ouvriers qui ont, coûte que coûte, tenu à défendre leur outil de travail et qui, très probablement, on leur doit le fait de la nouvelle orientation du chantier qui accueille plusieurs petits chantiers navals, des chantiers de restauration de bateaux en bois, des chantiers de réparation de haute plaisance et qui va accueillir ce très conséquent projet qui est un projet d'un ascenseur à bateaux. Qui pourra donc mettre à quai des unités de très haute plaisance, hein, des bateaux qui peuvent aller jusqu'à 80 mètres de long. Donc c'est un chantier qui est en cours de construction, qui devrait voir sa réalisation dans peu de temps, je crois. Normalement, il est prévu à la fin de l'année. Ils ont toujours veillé à avoir un œil sur les propositions qui ont été faites.
Vous entretenez avec le chantier actuellement ?
Très bon. excellents. Je peux entrer, je suis copropriétaire du chantier. Comme tous ceux qui ont occupé le site, nous sommes copropriétaires. Alors ça ne me rapporte rien en argent, mais ça me rapporte tellement en tout. Quoi, hein. C'est-à-dire, tous ceux qui ont les 160 et quelques personnes qui se sont battues plus, les gens de la Ciotat au cœur, nous sommes, et même plus les gens qui ont donné de l'argent, qui ont donné des une journée par mois de salaire pour nous faire tenir en France, et des gens de tous les coins de France qui ont donné. Il y a une dame qui s'appelle Paulette Castillon qui est morte maintenant. Elle a donné, 20 ou 30 000 francs de sa petite retraite, en plusieurs fois. Et bien, elle les a donnés pour nous. Pour nous, on ne nous connaissait pas. Hein. Et cela, on est tous copropriétaires. Donc, je viens un peu chez moi là-bas.
Ici, en fait, vous avez été accueilli entre guillemets par la CEMIDEP.
Oui.
C'est quoi la CEMIDEP ?
Ben, c'est une société d'économie mixte qui, comme toutes les sociétés d'économie mixte, a une majorité absolue de capitaux publics. Donc ici, c'est, pour nous, c'est la région, le département, la commune.
Et la CEMIDEP est constituée d'un bon nombre d'anciens ouvriers du chantier.
Ben, les salariés de la CEMIDEP sont pratiquement tous des anciens du chantier. Mais c'est une toute petite équipe par rapport à ce qui existait avant.
Et vous avez l'œil sur quoi maintenant ?
L'œil sur quoi ?
Qu'est-ce qui se passe au chantier ?
Ben, ce qui se passe, ce qu'on veut, on regarde beaucoup, c'est l'avancement de l'ascenseur à bateau. Ça se fait, ça marche, ça y est, c'est bien parti. Je crois qu'on va y arriver au bout. Ça, on le verra à la fin de l'année. En principe, à la fin de l'année 2006, il devrait être livré. Ça va être du travail. Il y aura du travail parce que les prévisions, c'est quand même un millier de personnes sur le site complet, hein, pas que pour l'ascenseur à bateau. Mais sur le site, il y aura quand même, pour l'instant, on est quand même à presque 400 personnes.
Aujourd'hui, il y a à peu près 300 emplois dans le chantier.
Adèle Collard.
Et il réengage à peu près 20 personnes, donc des 105 qui ont été dans la lutte. Et de temps en temps, il y a des personnes qu'on avait rencontrées qui sont engagées 3 mois par-ci, 3 mois par-là, jusqu'à leur pré-retraite de l'amiante. Ce qui est assez frappant, c'est que par exemple, au portail, à l'entrée du chantier, les gardiens du chantier sont les anciens. C'est une place, évidemment, qui n'a plus rien à voir avec le savoir-faire, le métier qu'ils faisaient toute sa vie, mais ils sont dans le chantier et je pense que pour eux, c'est ce qui est le plus important.
On entend souvent la lutte continue. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Et oui, elle continue. Parce que là, comme il y a été créé une CEMIDEP, on y est dedans, nous, dans la CEMIDEP. On a notre œil. Et si on n'y serait pas, je ne sais pas où c'est qu'on en serait. Heureusement qu'on y est.
C'est-à-dire que quand il y a un conseil d'administration de la CEMIDEP, non, vous y êtes ?
Notre représentant, M. Tida, y est. Et il a son mot à dire. Comme représentant des occupants.
Paul Marchelli explique cependant qu'à son avis, deux dossiers sont plus symboliques que les autres dans cette région de ce qu'il appelle les erreurs du gouvernement, la réouverture des chantiers de la Ciotat et Eurocopter.
D'abord, Eurocopter, 500 postes supprimés. Hein, je crois qu'il est important de ne pas dramatiser. 500 postes supprimés, pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une crise mondiale, vous le savez, de l'hélicoptère, et que malgré que Eurocopter soit le premier producteur mondial à l'heure actuelle, il y a un problème. Et puis, il faut bien le dire, l'État actionnaire pour Eurocopter France ne joue pas pleinement son rôle et ça mérite d'être développé. Alors par contre, pour la Ciotat, quelle honte ! Entendez-moi bien, quelle honte ! Quelle honte que de faire semblant de rouvrir ce chantier alors qu'on sait très bien que c'est une opération électorale et alors qu'on sait très bien qu'on sera obligé de refermer le dossier tout de suite après les élections législatives. C'est honteux.
Nicolas Pluet.
C'est vrai qu'on a beaucoup de mal, nous, à se rendre compte de ce qu'était la vie de ce chantier. on donne des chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Quand on regarde aussi certaines photos, en particulier les années, dans les années 70, où dans ce chantier, il sortait jusqu'à 10 à 11 bateaux par an. C'est vrai qu'on est, quand on se promène sur le site, il y a quelques entreprises qui travaillent, mais le gigantisme de l'endroit atteste d'une activité qui s'est petit à petit amenuisée.
Petit à petit, non, ça a été quand même un arrêt très brusque et violent, quoi, parce que ça, jusque dans le début des années 80, ça tournait encore vraiment. Hein. Et puis toute la ville vivait au rythme du chantier. Les prises de poste, c'est parce qu'ils travaillaient en faisant en équipe, hein, pour l'essentiel de l'effectif. Ça rythmait toute la vie de la Ciotat. Et le bruit aussi, d'ailleurs, parce que même après qu'on ait abandonné le rivetage pour la souillure, le bruit du chantier, c'était le bruit de la ville. Hein,
depuis le moment où vous êtes rentré au chantier jusqu'à maintenant, vous dites un travail de mémoire.
Oui, je crois que...
Et dans quel domaine ?
Marius Cioni.
La mémoire de quoi ?
La mémoire, d'une part, de ce qui a été fait pendant la Résistance. Hein, parce que là, écrire l'histoire de la Résistance, j'en ai parlé, y compris au cours d'une cérémonie, mais c'est très difficile parce que il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent, hein, et il ne faut pas faire d'erreur.
Est-ce que vous pensez que l'histoire des chantiers navals, l'histoire de la lutte, est une histoire intéressante à écrire?
Je pense que c'est une nécessité pour les jeunes générations qui sont confrontées à d'autres problèmes que nous n'avons pas eus. Que nous ne pourrons pas connaître, mais qui vont être confrontés à d'autres, qui sont confrontés, qui vont être confrontés encore à des problèmes complètement différents, je pense, hein, de ce qu'il y a actuellement. Ils ont besoin de points de référence. J'en ferai presque une certitude, hein, de savoir comment on vivait avant, comment on a vécu maintenant et comment eux vont vivre la jeune génération. Parce que la jeune génération, je la plains. Je ne sais pas leur retraite, comment elle sera, je ne sais pas les conditions de travail qu'ils vont avoir, c'est vraiment très difficile à appréhender. Voilà ma philosophie.
Moi, je ne viens pas d'un milieu ouvrier. On fait partie de cette génération de parents nés pendant ou juste avant la guerre, donc qui ont connu les périodes d'après-guerre et les Trente Glorieuses, et qui donc n'ont, d'une certaine façon, eux, pas vraiment, disons, connu, n'étant pas la classe ouvrière, n'ont pas vraiment connu tout ce ralentissement économique et toute cette mutation économique. C'est une impression que je peux avoir qu'il y a eu une réelle mutation de la classe ouvrière. Maintenant, les époques évoluent, hein. Si on se réfère au témoignage d'une des personnes qu'on a interrogées et qui travaille en ce moment au chantier, le travail se fait toujours. Hein. Les ouvriers sont des ouvriers hautement qualifiés, que ce soit pour la réparation de bateaux en bois ou pour que ce soit la construction de bateaux de course avec des techniques tout à fait de pointe. Mais en tout cas, sur le plan politique et syndicale, son témoignage, c'est que maintenant, lui, dans son entreprise, il est le seul syndiqué. Et que, évidemment, il n'y a plus du tout le même type de vie qui présidait à ces groupes nombreux des grandes entreprises. On entend beaucoup parler maintenant de la difficulté du travail dans les entreprises, mais presque à tous les niveaux. Bon, maintenant, c'est dans le cours du temps, c'est la précarité, c'est la rentabilité, et on n'entend parler que de ça. Donc évidemment, les gens ne sont plus dans une sécurité d'emploi. Voilà, on a basculé dans un monde tout libéral. C'est une autre philosophie des choses. C'est donc un peu ça qui m'intéressait de non pas de mettre à jour, mais en tout cas d'en avoir le témoignage.
Albert Tozzi et son père Marino Tozzi.
Il y avait tout un tas d'activités. Il y avait une équipe de football qui était financée par le chantier naval. Il y avait le basket, il y avait le tennis. On a même créé.
Il y avait les matchs d'une corporation de football. Les corporations de menuiserie jouaient contre la chaudière, contre le serpentage en fer. Et ça, le soir, on se retrouvait. Le samedi, le dimanche, c'était des parties de rire, parce que toutes les corporations se réunissaient et ça se terminait par des repas ensemble, vous voyez, voilà, comme ça.
La période qu'il y a aujourd'hui, une méthode, une façon, disons, de vivre qui a aujourd'hui disparu, c'était le cabanon.
Et le cabanon.
Le cabanon. Et le cabanon, alors, vous savez ce que c'est le cabanon?
Et le cabanon, c'est quoi?
Le cabanon, c'est la petite résidence, la petite cabane que l'on pouvait avoir dans les bois, parce que certains avaient des propriétés. Puis par exemple, l'extérieur de la Ciotat n'était pas bâti comme il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces petits cabanons, là où il y avait simplement une cuisine avec l'eau de la citerne et une terrasse avec une pergola pour pouvoir manger
de l'eau. Et la bouteille de pastis pour boire l'apéritif.
Mais... Le surnom, c'était le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Il y avait donc des manifestations, etc. Mais c'était également les repas au cabanon du 1er mai. Alors là, c'était... Et après, il y avait la finale de la Coupe Intercorporation de football au stade le 1er mai.
1er mai.
Il y avait une vie, disons, ludique... qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Et c'est tout ça, c'est tout ce que l'on a perdu qui crée cette nostalgie et qui crée ce regret qu'on ne sait pas toujours bien exprimer, mais qui, au fond de nous-mêmes, il est là, quoi. Il est encore vivant. Dans ma entreprise, on avait le centre Maurice Sandral, qui était une construction que le comité d'entreprise avait faite, où il y avait la bibliothèque. Il y avait des salles, etc., mais une bibliothèque qui était
magnifique,
beaucoup plus pourvue que celle de la ville d'aujourd'hui. Discothèque également, autrement dit, on pouvait échanger des disques, aller en chercher, les rapporter la semaine suivante, les livres pareils. Autrement dit, on essayait de créer une vie culturelle, disons, pour les travailleurs.
Comme pour d'autres époques historiques, la parole n'est pas délivrée, hein. Bon, moi, je me souviens très bien d'un film de Tavernier qui s'appelle « La guerre sans nom », sur un contingent d'appelés de Grenoble durant la guerre d'Algérie, et de se rendre compte que ces gens-là n'en avaient jamais parlé. Et de la même façon, ils en parlent entre eux, de ce conflit, de cette lutte, de cette époque de travail. Mais disons cette délivrance de la parole ne s'était pas vraiment opérée. On ne va pas dire qu'on est non plus ceux qui avons ouvert les voies de la grande libération, loin de là. Donc dire est-ce que ce travail est fini, cette étape là est finie. Maintenant, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va déboucher sur une autre forme? On peut toujours l'espérer.
De cette lutte et de cette occupation, qu'avez-vous gagné, qu'avez-vous perdu?
Moi, j'ai gagné la chose la plus précieuse, c'est que j'avais des collègues et j'ai eu des frères de combat. Parce que vraiment, c'était du combat, c'est la lutte. J'avais des collègues au travail, des gens que je connaissais pas, d'autres que je connaissais et que j'ai découvert sur un autre aspect, avec des trucs vachement profonds, mal exprimés peut-être, hein, mais des trucs très très profonds. J'ai eu des frères, on se fait la bise encore là, pour les vœux, on s'est fait la bise. Et puis il y en a que j'ai perdu parce qu'ils n'ont pas tous survécu à tout ça. Et puis voilà. Mais j'ai gagné ça d'abord.
Ce qu'on appelle les 105.
Les chevaliers de la lumière. Voilà. Ils ont eu le mérite, et même s'ils ont été critiqués, si peut-être moi au départ je les ai critiqués, j'ai dit ça, c'est des yeux doublés revus, mais en définitive la vie nous demande que c'est eux qui ont eu raison. Parce que si on va avoir un ascenseur
à bateau,
on leur doit eux. S'ils n'avaient pas occupé le chantier, s'ils n'étaient pas restés dans le chantier, ils auraient été foutus en l'air tout ça. Je considère que même peut-être au départ, pas que j'étais con, mais enfin, j'ai dit c'est vrai qu'ils n'ont plus rien à perdre. Hein. Ils ont tout à gagner. Mais s'ils n'avaient pas fait cette lutte, eh bien, on n'en serait pas là. Et les chevaliers de la lumière, je les remercie. Je les félicite.
En tout cas, on sent que de cette lutte, que ce soit par ceux qui l'ont menée, ou par les enfants de ceux qui l'ont menée, il y a à La Ciotat une volonté de transformer cet état de lutte en autre chose. Bon, on a assisté, nous, c'est là qu'on a fait les premières interviews, à un festival très intéressant qui s'appelle le Festival des Engagés, festival de documentaires qui ont tous un caractère engagé. Bon, il y a un certain nombre de personnes qui s'investissent dans des luttes. L'un des portraits tourne autour d'un monsieur qui s'occupe d'une grosse association sur l'amiante. Bon, on a su tardivement. Évidemment, l'amiante était très fréquemment utilisée sur les bateaux. Bon, donc un grand nombre d'ouvriers ont été en prise directe avec l'amiante, selon ce qu'ils y faisaient. L'association du Centaure, voilà. Donc on sent bien qu'il y a un réinvestissement dans d'autres luttes. Bon, et ça fait tout de même assez plaisir à voir. Bon, bien sûr qu'ils en parlent encore, comme pour eux ça a été... Bah, c'était 10 ans de leur vie, c'est quand même pas rien. C'est certainement douloureux de sentir qu'on veut effacer cette mémoire-là.
Xavier Marchand, Adèle Collard et Clara Le Picard pour leur documentaire Portrait croisé, dont ils ont bien voulu nous céder quelques extraits. Nous remercions aussi les ouvriers du chantier naval de La Ciotat, Marius Sioni, Pierre Bouvier, Albert Tosi et son père Marino Tosi, Daniel Laurent et Nicolas Pluet.
Thank you.